Le journal pour commencer, comme chaque soir, Hélène Roussel, bonsoir.
Bonsoir.
L'essentiel de ce mardi commence avec un premier accident mortel pour un conducteur de trottinette électrique, c'était à Paris. Hier soir, comment mieux réguler la circulation de ces engins ? Un décret est en préparation, c'est ce que dira Thibault Lefèvre dans une minute. Et dans l'actualité ce soir également, Hélène.
Les urgences à l'os, les soignants dans la rue et le soutien des patients. Référendum, j'écris ton nom. François Ruffin, très en forme cet après-midi à l'Assemblée. Les chiffres de la Banque de France, il paraît que le pouvoir d'achat est en hausse. Le New York Times renonce à sa caricature quotidienne après une polémique. Le dessinateur Patrick Chapat, écœuré, vous l'entendrez. Et puis les favorites, les redoutées aussi du mondial de foot. Les américaines entrent sur la pelouse ce soir.
À 18h15, un jour dans le monde ce soir au Soudan, troisième jour de désobéissance civile, une semaine après que le sit-in de Khartoum ait été dispersé dans le sang. Cette révolution est-elle encore à l'avenir ? Est-ce qu'on peut revenir totalement à la case départ ? C'est ce qu'on verra avec le premier invité ce soir. Nous sommes également en Russie avec un étonnant reportage de Claude Brouillot sur les gens qui disparaissent ou se perdent en forêt. Et puis 19h20, le téléphone sonne, allez-y, le standard est ouvert. On parle immobilier ce soir. Encore une fois, on frise des taux records, à peine plus de 1% pour emprunter. Super, mais qui peut encore acheter en ville ? À Paris notamment, le mètre carré frôle les 10 000 euros partout. Acheter à quel taux ? Oui, mais à quel prix ? Et quel profil aussi pour le futur acheteur ? Est-ce que vous avez le bon ? 01 45 24 7000.
France Inter.
La question n'était pas de savoir si, mais quand. Eh bien voilà, ça s'est passé hier soir. Un conducteur de trottinette électrique s'est tué dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Le jeune homme de 25 ans a grillé une priorité à droite et a percuté de plein fouet un camion. Un accident qui repose bien des questions. Port du casque, couloir de bus ou trottoir, limite de vitesse. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Hélène.
Pour l'instant, c'est le vide absolu pour ne pas dire le casse-tête, hein, mais un décret est dans les cartons.
Oui, c'est prévu pour le mois de septembre et les nouvelles règles, eh bien, elles sont pratiquement prêtes. Alors, les voici, ces principales mesures. Elles sont révélées par le délégué interministériel à la sécurité routière. Il s'appelle Emmanuel Barbe.
La réglementation essaye le plus possible de coller à celle qui s'applique aux bicyclettes, avec quelques exceptions. Ce sera interdit sous l'âge de 12 ans. Ces engins seront bridés à 20 km/h. On doit aller principalement sur les bandes cyclables la nuit. Les gens qui utilisent ces engins devront porter une sorte de signal réfléchissant. On n'ose plus dire gilet jaune aujourd'hui, mais c'est ça le principe quand même. Et une chose est claire, l'interdiction du trottoir. Le trottoir doit rester sanctuarisé pour les piétons ou ceux qui ont des engins non motorisés.
Voilà pour les futures nouvelles règles qui arrivent donc bien après la bataille. Emmanuel Barbe le concède. L'État a eu du retard à l'allumage, notamment face à l'agressivité des 12 opérateurs qui louent actuellement des trottinettes électriques à Paris.
Vous savez comment ça marche, hein. Ils arrivent avec des camions, ils installent les trottinettes partout et ils installent le besoin. Mais je rappelle quand même que malgré tout, c'est un mode de mobilité qui est plébiscité et que donc il n'y a pas le désir non plus d'entraver le développement de ce mode de mobilité.
Encadré donc sans entraver, pas question de faire marche arrière. Il y a aujourd'hui environ 200 000 trottinettes en libre service à Paris.
Merci Thibault Lefèvre. Les recherches n'ont rien donné. À Lorient, le jeune homme qui a fauché deux enfants dimanche alors qu'il roulait sans permis a pris la fuite à pied avec sa passagère. Depuis, les deux restent introuvables. La police nationale a lancé ce midi un appel à témoins diffusé sur Twitter. Parti rejoindre Daesh en Syrie, arrêté par les Turcs puis expulsé car il y a un accord franco-turc à propos des djihadistes français. C'est donc un homme de 35 ans et ses deux compagnes qui sont arrivées en France ce matin. Tous les trois mis en garde à vue à la DGSI. Leurs neuf enfants ont quant à eux été placés. En bref, encore un groupe proche de la mouvance néo-nazie, soupçonné de vouloir attaquer des lieux de culte juif ou musulman, a été démantelé. 5 personnes mises en examen.
Allez, les urgences à bout. Nouvelle journée de manifestation des soignants un peu partout en France.
Alors que les sénateurs votent la loi santé, que le ministère promet de nouveaux ajustements, notamment sur les salaires. Ils sont des centaines à crier encore au secours. Manque d'effectifs, manque de moyens, des burn-out qui se multiplient et se répètent. Bref, l'hôpital est malade et les usagers ne disent pas autre chose. Ce couple, par exemple, venu accompagner son fils atteint de mucoviscidose à l'hôpital Nord de Marseille.
C'est sale, il y a beaucoup d'attentes, il y a au moins 6 heures d'attente. Et pour mon fils, 10 heures d'attente.
C'est une honte.
Après, bon, je comprends que les gens ils s'énervent auprès des infirmières, du personnel. Hein. Après, les gens ils sont à bout. Hein.
Ça s'est dégradé. Ils veulent faire des économies comme si c'était des entreprises. Ça veut dire business. Et le personnel, eh bien, c'est ceux d'en bas qui souffrent les conséquences. Hein. Et les malades. Hein. Bah, mon fils, depuis la naissance, 10 heures dans une salle où il y a facilement 30 patients, qui logiquement ne doivent pas être mélangés avec d'autres patients, pour éviter d'attraper d'autres choses. Ça, c'est inadmissible.
Réaction recueillie par Laurent Goria de France Bleu Provence pour France Inter. C'est chaud bouillant aussi à l'Assemblée nationale cet après-midi pour la séance de questions-réponses. À la veille de son discours de politique générale, acte 2, le Premier ministre Édouard Philippe a trouvé François Ruffin sur sa route. Le député de la France Insoumise accuse le gouvernement d'avoir peur des RIP, ces référendums d'initiative partagée que François Ruffin, lui, voit rimer avec liberté.
Puisque le premier référendum d'initiative partagée, le premier de notre histoire nous le permet, allons-y par le bitume des aéroports. Ils vendent Charles de Gaulle, nous répondons référendum. Ils cassent nos urgences, nous répondons référendum. Ils ferment nos classes, nous répondons référendum. Ils polluent l'air, la terre, la mer, nous répondons référendum. Partout sur nos cahiers d'écoliers, sur les murs de nos villes, sur nos pages internet, nous écrivons ce nom. Référendum ! C'est une frénésie qui doit saisir la France ! Référendum !
La réponse du Premier ministre, cinglante.
Monsieur le député, aucune votation, aucune élection ne fait peur aux démocrates. Il y a quelques mois, celui qui dirige votre formation politique a dit qu'il voulait faire des élections européennes un référendum, comme vous dites, contre le gouvernement et contre le président de la République. Eh bien, je crois, monsieur le député, que les Français ont voté.
Édouard Philippe, donc à l'Assemblée cet après-midi. Notez que demain matin à 8h20, François Ruffin sera l'invité de Nicolas Demorand sur France Inter. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron marche sur sa jambe gauche aujourd'hui devant l'Organisation internationale du travail à Genève. Tout à l'heure, le président a dénoncé les dérives, je cite, d'un capitalisme devenu fou qui privilégie les ajustements économiques aux droits sociaux, fermez les guillemets. Et puis en allusion au mouvement des Gilets jaunes, le chef de l'État a par ailleurs reconnu de nouveau avoir fait une erreur, non pas sur le fond, mais sur la méthode. Vous l'entendrez dans le journal de 19h.
La Banque de France sort ses chiffres aujourd'hui.
Bilan et prévisions pour les 3 ans à venir. D'abord, la France fait toujours mieux que l'Allemagne en termes de croissance, mais ce qui est sans doute le plus marquant, bonjour Delphine Simon,
bonjour,
c'est que les Français, depuis l'an dernier, gagnent en pouvoir d'achat.
Oui, plus 2% de pouvoir d'achat cette année, en 2019, prévoit la Banque de France. C'est du jamais vu depuis la crise de 2007. L'État a mis la main au portefeuille, on le sait, face au mouvement des Gilets jaunes. Il y a donc eu le gel de la CSG pour les petites retraites, à quoi s'ajoutera l'an prochain la réindexation de ces pensions sur l'inflation. Il y aura aussi la baisse progressive de la taxe d'habitation. Vous ajoutez une inflation basse grâce au prix du pétrole et du gel de la taxe sur l'essence. Un gros coup d'accélérateur sur les salaires, c'est la prime exceptionnelle de début d'année. Le hic, c'est que la consommation, elle ne décolle toujours pas, explique Olivier Garnier, directeur de la statistique à la Banque de France.
Presque les deux tiers de ce pouvoir d'achat a été pour le moment mis en réserve parce qu'il y a eu tout d'un coup un gros montant de revenus qui a été distribué, notamment par les baisses de cotisations et puis les autres mesures en début d'année. Nous sommes dans un environnement qui reste incertain. Donc, quand vous n'y voyez pas complètement clair, vous mettez un peu plus de côté parce que vous ne savez pas encore de quoi sera fait demain.
Un simple retard à l'allumage, selon lui, avec l'accélération des salaires, les baisses d'impôts sur le revenu, les Français devraient arrêter l'an prochain de garnir leur bas de laine et dépenser plus. Un moteur pour la croissance française, car cette demande intérieure très dynamique permet à notre économie de compenser le ralentissement mondial, contrairement à nos grands voisins de la zone euro.
Delphine Simon, à propos de consommation, McDo, Burger King, KFC et tous les autres, chaque année, les 30 000 fast-foods de France produisent à eux seuls plus de 180 000 tonnes de déchets d'emballage et ils ne recyclent rien. Convoqué au ministère de la Transition écologique aujourd'hui, une quinzaine de chaînes a promis cracher et de respecter dorénavant la réglementation. Faut dire que la secrétaire d'État, Brune Poirson, a choisi le name and shame pour les contraindre. En clair, elle menace de publier les noms des entreprises qui ne respectent pas la règle, donc de jouer sur leur réputation. Et là, visiblement, tout d'un coup, ça fonctionne, Sandy Dauphin.
Sur le perron du ministère, no comment de McDo, sa vice-présidente passe devant les journalistes, oreille collée au téléphone portable. Pareil pour le représentant de Burger King, pressé et peu loquace. Le directeur général de KFC, le géant du poulet, tente d'éviter les micros et les caméras.
Non, pardon, on est vite. Il y en a d'autres qui vont sortir.
Avant de s'y résigner.
On a signé le contrat, on veut absolument s'engager sur la loi.
Et pourquoi il a fallu en venir là pour arriver à s'engager chez KFC ?
On a toujours voulu faire, la loi était un petit peu pas claire.
Et aujourd'hui, c'est plus clair ?
Très clair.
Et les représentants des fast-food ont peu goûté d'être convoqués pour la deuxième fois au ministère pour se faire remonter les bretelles et encore moins d'être jetés en pâture à la presse. Désormais, les récalcitrants sont clairement pointés du doigt par la secrétaire d'État à la transition écologique.
Brioche dorée, ils n'ont pas daigné se rendre à la Réunion aujourd'hui.
Faire pression en jouant sur la réputation des marques, stratégie assumée par Brune Poirson.
En début de réunion, il n'y avait que 5 enseignes qui s'étaient engagées. En fin de réunion, l'ensemble des chaînes de restauration rapide qui étaient présentes à cette réunion-là, eh bien, ont signé ce contrat d'engagement, à savoir 70% de tri d'ici la fin de l'année et 100% d'ici la fin de l'année 2021.
Et ce soir, l'enseigne épinglée par Brune Poirson, la Brioche Dorée, affirme par communiqué de presse qu'elle va signer le contrat d'objectif.
À propos de consommation, toujours attention, des moules vendues sous la marque Marédoc, commercialisées par Carrefour et Intermarché fin mai début juin, font l'objet d'un rappel en raison de la présence de toxines paralysantes. C'est une info France Bleu Hérault. Ces produits ne doivent surtout pas être consommés.
C'est un recul rarissime en Russie. Le journaliste d'investigation Ivan Goulounov a été libéré.
Oui, on vous en parle depuis plusieurs jours. Le journaliste était accusé de trafic de drogue. Et bien, toutes les poursuites ont été abandonnées. Reporters sans frontières salue une mobilisation historique de la société civile. L'opposant Navalny évoque un exemple de ce que la solidarité peut accomplir. Tous les détails sur cette affaire à 19h dans le journal. C'est une page qui se tourne aux États-Unis et littéralement. Il y a un mois et demi, le journal The New York Times publiait une caricature du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Tollé général, le dessin est qualifié d'antisémite et face aux manifestations sous ses fenêtres, le New York Times s'excuse deux fois. Avant de prendre une décision radicale, les dessins de presse dans son édition internationale, c'est terminé. Parmi les dessinateurs attitrés du journal, Patrick Chapat, il dit son écœurement à Valérie Cantier.
Je m'inquiète de l'état de la discussion publique à l'ère des réseaux sociaux et du pouvoir des foules en colère sur les rédactions, capables de faire paniquer les rédactions, et qu'à un moment donné, il faut tracer une ligne et il faut commencer à se défendre. Parce que quand on attaque le dessin de presse, on attaque la démocratie, en fin de compte. Je crois que c'est pour ça que cette tribune a eu un tel écho, ça m'a beaucoup surpris, en fait. Hier soir aux États-Unis, ça a explosé, il y a eu CNN, même Fox News et plein d'autres médias le New York Times a fini par faire un communiqué dans la soirée. Donc ils étaient soumis à plein de réactions, des gens qui parlent de se désabonner, ce qui n'arrivera bien sûr pas, mais enfin, les gens réagissent. Ils se disent peut-être qu'il faut réagir à un moment donné, et je crois que c'est vrai.
Patrick Chapat avec Valérie Cantier, son interview en longueur à retrouver sur franceinter.fr. On passe au sport, le foot, les Bleus seront-ils réveillés ce soir après la gifle de Konya 2-0 samedi dernier en Turquie. Éliminatoire de l'Euro 2020, coup d'envoi en Andorre pour le dernier match avant les vacances à 20h45. Et dans la cour des grandes, ça donne États-Unis-Thaïlande ce soir.
Allez, on croise les doigts pour les Françaises. C'est l'entrée tant attendue que redoutée des Américaines, donc dans le mondial féminin de foot.
Déjà sacrée à 3 reprises, étonnante du titre, elles affrontent les modestes Thaïlandaises à Reims. Guillaume Batin.
L'équipe américaine est au football féminin ce qu'est la Seleção brésilienne au football masculin. L'équipe la plus titrée de l'histoire, avec 3 victoires en Coupe du Monde sur les 7 précédentes et 4 médailles d'or olympiques. C'est le plus beau palmarès de la compétition, de très loin devant les Allemandes, double championnes du monde, les Japonaises ou les Norvégiennes. Elles comptent dans leur rang des stars, Alex Morgan, 3 500 000 abonnés sur Twitter, 13 millions de tous réseaux sociaux confondus. L'attaquante d'Orlando touche un salaire de 450 000 dollars par an et en 2018, elle a inscrit 18 buts en 19 sélections. Mais elle n'est pas la seule, Megan Rapinoe et Carly Lloyd l'accompagnent pour médiatiser leur exploit outre-Atlantique. Elle constitue l'équipe la plus expérimentée du tournoi avec une moyenne de 81 sélections. Et elles devraient impressionner ce soir pour leur entrée dans la Coupe du Monde. Leur dernier match face à la Thaïlande s'était soldé par un cinglant, 9-0. À Reims, Guillaume Batin, France Inter.
États-Unis-Thaïlande, c'est donc à 21h à l'instant. Coup d'envoi pour Chili-Suède, ça se passe à Rennes. Et puis évidemment, demain, on ne rattrape pas les Bleus face aux Norvégiennes. Une Coupe du Monde féminine enfin qui déplace les foules. La barre symbolique du million de billets a été écoulée. 14 matchs à guichet fermé, c'est ce qu'on appelle une revanche.